Bonjour mesdames et messieurs et tous les autres, bienvenue à ce nouvel épisode de Ciné Brunch, l'émission qui n'a pas peur de faire son propre popcorn et ses propres céréales, ainsi que des fois ses crêpes, parce qu'on brunch puis c'est le fun.
Ben ouais, pourquoi pas.
Écoute,
tant qu'il y a du maïs ou du sirop de maïs, ça va.
Du sirop de maïs?
Ah oui, dans le popcorn.
Ouais, mais des crêpes, tu peux les faire avec comme d'extraordinaires bananes. Mais I've got banana on my mind.
D'accord.
Longue histoire. Je suis Louis Laramé, entouré de mes co-animateurs, Mélina Lopez-Nadeau.
Oui.
Et Jim Boulay.
Présent.
Présent, excellent. Hey, est-ce que vous avez passé des belles semaines, Jim?
Oui, ben en tout cas une depuis qu'on s'est vu. Oui, effectivement. Oui, c'est très agréable. J'ai vu plein de films. Tout le monde est heureux. C'est merveilleux.
Puis t'as-tu des nouvelles à nous annoncer?
Ben en fait, tu sais que dans quelques semaines, ce sera le Radio... En fait, Radio-Canada présentera le gala Québec Cinéma. En fait, le 3 juin à... Ici Radio-Canada Télé, et sachez qu'il est possible pour le public, donc pour vous et moi, et surtout probablement pour tous les autres principalement, de voter pour le prix du public en vous rendant sur le site internet de Radio-Canada. Alors, il y a 5 films en nomination, Ballerina, le dessin animé, Bon Cop, Bad Cop 2, De Père en Flic 2, Junior Majeur et Roulement de tambour.
Le problème d'infiltration.
Les affamés.
Trip à 3!
Ah, non!
Donc, c'est le moment d'aller voter contre Trip à 3 si vous voulez pas que ce film reçoive le prix du public. Dans tous les cas, tu vas être content d'entendre, Louis, que le problème d'infiltration est quand même en nomination dans au moins 5 ou 6 catégories, mais pas dans le prix du public. Donc, il y a de l'espoir.
Voilà, félicitations à Christian.
Oui, qui est d'ailleurs en nomination.
Voilà.
Oui.
Bon, excellent. Mais au moins, pour son jeu d'acteur. Mais je vais aller voter contre Trip à 3, check mon balling. De toute façon, des 5, il y en a 2 que j'ai vus. Bon Cop, Bad Cop 2, ainsi que Trip à 3. Puis j'ai assez haï Trip à 3 pour dire que c'est ça.
Voilà.
Moi, personnellement, cette semaine, je vais vous annoncer une grande nouvelle. Vous savez, avec la sortie du plus récent Deadpool 2, avec Ryan Reynolds à la tête, écrit par Rhett Reese et Paul Wernick, ben, savez-vous à qui ces trois gens-là vont être associés pour un projet original avec Netflix? C'est une personne célèbre qui est connue pour des films à haut budget et avec beaucoup d'explosions. Et je parle évidemment de... Nos auditeurs le savent déjà, mais c'est Michael Bay qui est connu pour la série Transformers.
Ah d'accord, oui, des films de haute qualité, là.
Ben, j'ai dit vilifié.
Ah d'accord,
j'ai parlé
d'accord.
De...
J'étais plus dans Spielberg, là, puis j'arrivais pas, là.
Non, parce que Spielberg, c'est un bon réalisateur. Michael Bay, c'est encore...
Fait que ça promet, dans le fond, c'est ce que tu me dis. Ça...
Ma face, en ce moment, parle beaucoup, malheureusement. Nos auditeurs auditrices ne le voient pas. Mais... j'ai de l'espoir, en sens que c'est un projet original, ça va s'appeler Six Underground. Ryan Reynolds va jouer dedans, c'est même pas clair s'il va jouer le rôle principal. On sait qu'il occupe toujours une part importante dans le processus créatif des projets auxquels il participe. Rhett Reese et Paul Wernick sont surtout connus pour les deux Deadpool, qui ont tous les deux un sens de l'humour déjanté, un autoréférencement très drôle. Fait que j'ai quand même espoir pour le projet, mais c'est que Netflix a une feuille de route tachetée pour ce qu'il s'agit de ses projets originaux. Mm. Autant on a des trucs merveilleux, extraordinaires.
Mais ça dépend, c'est ça. Des fois, c'est pas écoutable, des fois, c'est très bon.
C'est ça. Ça dépend vraiment.
Ça varie.
Faut pas tout casser pour Netflix. Là, je pense que Bright était pas si pire que ça quand même.
Ouais. On attend impatiemment la suite d'ailleurs. Voilà.
Bright 2. Mais le pire, c'est que je vais l'écouter parce que j'ai eu des moments de plaisir dans ce film-là, juste pas assez.
Bon.
Mélina, qu'est-ce que t'as à nous annoncer cette semaine?
Oui, en fait, moi, j'ai envie de vous parler aujourd'hui des Obama. Et là, Louis, je t'entends déjà me dire, mais c'est quoi le rapport avec le cinéma?
Je m'avance pas.
Mais en fait, il y en a un. C'est une nouvelle qui est sortie cette semaine. Alors, Monsieur Barack et Madame Michelle Obama ont signé un contrat avec Netflix de plusieurs milliers de dollars sur plusieurs années pour produire différents contenus vidéo pour Netflix. Donc, ils ont même déjà créé, en fait, leur boîte de production qui va s'appeler Higher Ground Productions. Et donc, c'est ça, on va avoir dans les futures années quelques productions de M. et Mme Obama qui seront...
Est-ce qu'on sait déjà si les filles Obama vont participer au projet ou c'est...
On ne sait pas ça encore.
On pourrait faire une émission qui s'appellerait « La famille Obamams ». Puis ça serait comme un peu dark.
OK, on va demander à Jim de quitter le studio, s'il vous plaît. Le trafic t'attend.
C'est ça. Non, mais en fait, je veux juste terminer en disant que Barack Obama a dit qu'il n'avait pas l'intention de se servir de cette nouvelle tribune ou plateforme pour critiquer les politiques actuelles du président en place.
Ouais, mais en même temps, ça s'appelle Higher Ground. En tout cas, j'ai bien hâte.
On verra, on va voir, mais c'est ce qu'il dit pour l'instant.
Je vais être scotché à mon écran de Netflix.
Voilà.
Bon.
Merci beaucoup. Mélina, cette semaine, ça ne te tentait pas de sortir de chez vous.
Non.
T'as vu un film qui se trouvait déjà sur les ondes de Netflix.
En fait, non. J'ai vu un film parce que, comme je vous ai dit récemment, j'ai découvert que je payais depuis quelques mois.
Ah oui, c'est vrai, pour Amazon.
Amazon Prime, oui. Donc, j'ai mis cet argent-là que j'ai investi malgré moi, semble-t-il. J'ai décidé d'écouter une production en fait de Amazon directement de leur studio. C'est un film de Woody Allen qui est sorti à la fin de 2017. Ça s'appelle Wonder Wheel et c'est en anglais seulement. Donc c'est son plus récent film et ça met en scène donc James Bellucci, Juno Temple. Je pense pas que ça se prononce comme ça, mais bon, ça sonnait bien.
Temple, non?
Sûrement, probablement. Définitivement Temple, mais on a aussi le chanteur Justin Timberlake dans le film et Kate Winslet qui est très loin de son rôle de Rose dans Titanic à l'époque.
Elle a pris un petit coup de vieux quand même, on va se le dire.
Elle a
une carrière cinématographique à l'extérieur de Titanic, cette femme-là. Une belle carrière cinématographique à l'extérieur de Titanic, cette femme-là.
Non, je pense pas.
Non. OK, c'est beau.
C'est ça, Rose, restez Rose.
Moi, j'ai pas vu de Titanic, fait que pour moi, ça n'existe pas.
OK, je comprends mieux maintenant.
Ouais.
Elle sort vraiment de ce qu'on la connaît. C'est leur première collaboration, en fait, entre Kate Winslet et Woody Allen. Et l'histoire, bon, ça se déroule dans les années 50 à Coney Island, à Brooklyn, New York, oui.
Évidemment.
Non, mais pour situer...
Un Woody Allen qui se passe à Brooklyn.
Oui.
Oh mon Dieu! Dans les années 50.
Oui.
Oh.
Dans le parc d'amusement, en fait.
Ouais. Oui.
Ah oui,
mais... J'ai pas du tout des flashbacks, moi, là. Ça... Pour ceux et celles qui comprennent pas la blague en ce moment...
La scène d'ouverture...
De Annie Hall.
De Annie Hall, ouais.
Mais Woody Allen est aussi un réalisateur qui a la mauvaise habitude de retourner sur des terrains connus.
Oui, mais là, ce que je vais en parler tantôt, mais il y a quelque chose de très gros qui différencie, selon moi, ce film-là de tous ses autres films. Et ça se situe vraiment au niveau de son directeur photo. Mais avant de rentrer là-dedans, je vais vous résumer rapidement l'histoire. Donc, on a les quatre personnages principaux. On a Ginny, qui est une ancienne actrice lunatique qui est devenue serveuse dans le parc d'amusement et qui a refait sa vie avec Humpty, veuf, qui travaille dans le parc d'amusement aussi. Et le couple vit avec Richie, le petit garçon de Ginny, qui a des fortes tendances pyromanes. En gros, il fait vraiment des feux partout et il est assez névrosé à ce niveau-là. Et donc, ça, c'est la petite famille. Et là, la tranquillité est ébranlée au retour de Carolina, 25 ans, qui est la fille de Humpty, mais qui n'ont pas de nouvelles depuis 5 ans. Et elle vient se réfugier chez son père après avoir marié un gangster qui veut maintenant la tuer parce qu'elle a parlé à la police. Et pendant que tout ça se passe, il y a Ginny, donc la mère, qui rencontre Mickey, qui est joué par Justin Timberlake, qui est un jeune et séduisant maître nageur qui rêve de devenir dramaturge. Ils deviennent amants et tout dégénère le jour où Carolina rencontre elle aussi Mickey et développe elle aussi des sentiments pour lui. Donc voilà, on va aller écouter la bande-annonce.
Enter Carolina.
Excuse me, do you know if Jenny's here?
I'm Jenny.
I'm Humpty's daughter. Here's his wife.
Is he gonna be surprised?
I'm marked. They're gonna kill me.
That's what you get when you marry a gangster.
I gotta have a drink.
No, Humpty, you've been good.
Damn it!
Miss, you can't be out here right now. We're expecting lightning storms.
When you're married to a man who got rich putting people's feet in cement, you probably never had to do a dish.
Your wife don't like to go fishing anymore, Humpty.
She made like she liked it.
To get me on the hook, I was the fish.
You know she's a marked woman.
Shouldn't she move on?
Ok, je veux juste souligner, avant qu'on aille plus loin, je trouve ça tellement drôle quand Justin Timberlake est casté comme un jeune homme séduisant, considérant qu'il approche la quarantaine.
Mais il fait pas du tout son âge dans ce film-là, en tout cas.
Non, mais ça, c'est toujours ça. Là. Je veux dire, Justin Timberlake va avoir 60 ans, puis on va avoir l'impression qu'il vient d'approcher de la trentaine. Mais j'ai aussi peut-être un petit man crush sur le chanteur de Sexy Back. Oui, c'est hein? Toi aussi, tu viens de ta...
Ah oui,
c'est
oui ça. Je viens de l'avoir dans la tête maintenant.
Excellent.
Eh bien.
Fait que parle-nous de cette... Jim, t'as pas le plaisir.
Ben non, c'est ça.
Mélina continue de nous parler de ce film qui me semble, après, écoute, la bande-annonce quand même intéressant. Là, j'avais pas...
Oui, ben c'est... Écoute, c'est sûr qu'on réinvente rien au niveau du scénario, des personnages, de l'intrigue. On a un narrateur qui est joué par Justin Timberlake qui parle à la caméra vraiment, il brise le quatrième mur, comme on dit. C'est des très bons acteurs qui sont vraiment mis en valeur, je trouve, dans le film par la couleur de l'image. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui parce que c'est vraiment ça qui m'a marqué dans ce film-là. Donc, on a une couleur de l'image qui est très saturée, mais également, on a deux palettes de couleurs différentes qui sont associées à deux des personnages principaux, donc à Carolina et à Ginny, au lieu d'avoir généralement une palette de couleurs pour tout le film. Et c'est vraiment très saturé, donc c'est vraiment... On voit vraiment la différence entre les deux et ça donne des images super intéressantes. Et c'est pour ça que j'ai plus envie de vous parler du directeur photo que du réalisateur, parce que tout le monde connaît aussi Woody Allen. Le directeur photo est italien, il s'appelle Vittorio Storaro, et il a gagné 3 fois le score de la meilleure photographie. C'est quelqu'un qui dit s'inspirer beaucoup de la peinture et c'est la 2e fois qu'il va collaborer avec Woody Allen. Et je suis allée lire plusieurs entrevues avec lui parce que c'est vraiment fascinant la lumière dans le film. Et il dit « J'ai été capable d'écrire la lumière dans l'histoire de Wonder Wheel ». Et c'est exactement ça. Le jeu de couleurs, le jeu de lumière, il vient donner une vision, il vient ajouter une dimension à l'histoire. Et ce qui est quand même intéressant, c'est qu'au début, il explique qu'en lisant le scénario, il n'arrivait pas du tout à le visualiser à l'écran parce que c'est un film qui a des très longs dialogues, ça peut aller jusqu'à 10 pages de dialogue, mais on vient dynamiser le tout avec des couleurs qui changent dans la même scène et ça vient vraiment renforcer, comme je disais, l'émotion des personnages. Donc, en fait, ce qu'il a fait, il a appliqué le principe de la théorie de la physiologie des couleurs, donc la façon dont on perçoit les couleurs pour créer un effet dramatique. Donc, en résumé, c'est quoi la théorie de la physiologie des couleurs?
Oui, Louis? Non, je trouve ça intéressant comme setup, mais je j'ai pas plus d'idées si je vais aimer le film ou pas, là.
Mais c'est du classique Woody Allen.
Ouais, mais Woody Allen a fait d'excellents films, voire Annie Hall, voire Point Break, comme il a fait des films que je suis pas capable de regarder, voire son truc le plus récent avec le comédien américain, là.
Paris
My Love, quelque chose comme ça.
Midnight in Paris.
Midnight in Paris, qui était pas écoutable à mon sens. Fait que je suis pas encore convaincu.
Mais écoute, Louis, comme je disais tantôt, on réinvente rien avec le scénario, on réinvente rien avec le film, puis vraiment, la qualité principale de ce film-là, c'est vraiment la couleur. Donc, je pense que pour apprécier ce film-là, il faut vraiment réussir à comprendre toute cette recherche-là artistique qui est mise sur la couleur, parce qu'au niveau du scénario, franchement, c'est pas non plus, ça casse pas des briques, là. C'est quelque chose qui est du déjà vu, c'est pas rien de très surprenant, en fait.
C'est classique Woody Allen, personnage névrosé qui communique d'une drôle de façon très intellectualisée, leurs émotions. Un peu tout ça, là, mélangé. Là.
Comme tu sais ça, classique Woody Allen. Mais c'est vraiment, ce qui est vraiment intéressant dans ce film-là, c'est vraiment comment on applique la fameuse théorie de la physiologie des couleurs. Donc, en résumé, ce que ça implique, c'est que chaque couleur provoquerait des changements physiologiques dans le corps humain. Donc, on a vraiment démontré ça récemment. Donc, un peu de biologie, on a démontré qu'il y avait un lien direct entre la rétine et l'hypothalamus. Donc, ce qui lie la perception de la couleur avec le système nerveux autonome. Donc, ça provoque chez le spectateur des changements physiologiques qu'on ne perçoit pas, mais qui induisent inconsciemment différentes émotions. Donc, on joue beaucoup avec ça et c'est vraiment la richesse de ce film-là. Et comme chaque couleur a sa propre fréquence, amplitude, énergie, différentes couleurs provoquent donc différentes émotions. Et comment ça se traduit tout ça dans le film, en fait, c'est que les deux personnages qui sont en opposition dans le film, c'est Ginny et Carolina. Et ils ont chacune, comme je disais tantôt, leur propre palette de couleurs. Donc le monde de Ginny est dans les tonalités d'un coucher de soleil. C'est orangé, c'est chaud, on associe ça vraiment à l'énergie vitale, niveau biologique, augmentation de la circulation sanguine, des tensions musculaires du pouls. Et donc, biologiquement, le rouge simulerait donc le système nerveux sympathique. Et tandis qu'en opposition, on a le monde de Carolina qui va s'exprimer dans une teinte beaucoup plus froide, beaucoup plus bleue. Et ça représente la pensée, l'intuition, l'intelligence, la tendresse. Et biologiquement, ça stimulerait le système nerveux parasympathique. Et où ça devient encore plus intéressant, c'est que quand les deux personnages dans la même scène entrent en conflit...
C'est mauve.
C'est pas mauve, mais ça, on mélange pas les couleurs, on promène le spectre de couleurs. Fait que l'image va être très orangée et va passer à très, très bleu. Et va revenir dans la même scène, dans le même dialogue, pour vraiment aller montrer différents points de vue des personnages. Donc, c'est vraiment ça, selon moi, la force de ce film-là. Et ça vient... Les acteurs sont déjà, à la base, très bons, mais c'est ça qui vient rajouter, je trouve, encore plus... le côté captivant dans le jeu des actrices, en fait, dans ces scènes-là, c'est qu'on se trouve à voir avec le jeu d'ombre, le jeu de lumière, ça vient vraiment amplifier tout ça, et ça l'ajoute une dimension vraiment intéressante.
Ben, heureusement, parce que c'est vraiment un film avec beaucoup de monologues, donc c'est un film où il y a des scènes, des fois, de plusieurs minutes dialoguées, mais en fait monologuées, où le personnage de Kate... j'ai Blanchett dans la tête. Kate Winslet parle comme dans un envolé, et ça doit être d'ailleurs très difficile à réaliser comme scène. Et ça serait facile de s'ennuyer dans un monologue comme ça. Ça serait facile de dire, OK, c'est long. Mais le fait de jouer avec les couleurs, j'ai l'impression que ça occupe l'œil, ça occupe une partie du cerveau, un peu comme se tenir sur une patte de chaise. Ouais. Il y a quelque chose qui fait qu'on réussit à...
Ça reste captivant, c'est ça.
C'est intéressant, je suis d'accord. Ouais. J'ai vu, puis ça m'a... Ouais, je trouve ça
c'est vraiment ça, la force de ce film-là. Fait que c'est vraiment apprécié au niveau d'une qualité technique d'un film, parce qu'au niveau, sinon, de l'histoire, ben c'est
Woody Allen, c'est bien, on se reconnaît, c'est de l'humour à un degré particulier.
Oui, mais... des personnages très névrosés, et c'est ça sinon... Donc voilà, donc le film Wonder Wheel.
C'est drôle parce qu'il joue plus dans ses films directement, c'est plus un acteur, mais on le sent, il y a toujours un personnage qui est lui dans les films, il y a toujours comme un moment où tu fais « Ah, ça c'est la psyché de Woody Allen sous forme de personnage de film. »
Oui, puis là c'est un peu subtil parce que c'est une femme.
Oui,
parce que la dernière fois c'était Owen Wilson qui était toujours drôle comme setup, tu sais, un grand blond américain de 6 pieds avec des épaules, c'était drôle de l'entendre avec la voix de Woody Allen.
Oui, mais là, c'est comme tu dis, Jim, c'est plus subtil.
Ouais,
puis on le retrouve aussi dans différents personnages, un peu dans le petit garçon aussi, là, qui aime ça mettre choses en feu.
C'est original. C'est agréable à voir, sans blague. C'est
excellent.
C'est
agréable. Ben, merci beaucoup, Mélina.
Mais ta note, ce serait quoi?
Ah oui, ta note.
C'est dur pour moi à dire, là, parce qu'au niveau du scénario, ça vole pas très haut, mais sinon, avec tout ce côté-là de l'image, j'irais avec un 8. Toi, Jim?
Ah ouais, dans ces eaux-là, mais je trouve que le scénario est quand même bon. Mais c'est sûr que c'est ça, c'est un scénario intellectuel.
C'est ça, exactement.
C'est pas du divertissement au niveau du scénaristique, c'est plus du divertissement au niveau visuel dans ce cas-ci. Mais ouais, non, autour de ça, moi aussi 8.5 dans ces eaux-là. Mais c'est pas un film que j'ai goût de revoir nécessairement, mais je suis content de l'avoir vu.
Mais si vous avez aussi, comme moi, vous payez Amazon Prime sans le savoir,
ben oui, c'est ça.
Comme moi, en fait, c'est ça, j'ai réalisé cette semaine que moi aussi.
Et donc...
Mais je suis toujours impressionné par les films qu'Amazon Studios produisent. L'autre deux semaines, c'était You Were Never Really There, qui était aussi une production des Amazon Studios. Je pense qu'il y a... Ça va être les prochains à surveiller, là, maintenant que Netflix est rendu le repositoire de...
D'Obama est compliqué.
Ben, pas juste ça, c'est que... alors que pendant un certain temps, Netflix était vraiment les meilleurs. C'était là que le cinéma et la télé de qualité se faisaient. À cette heure, c'est là où... Tout se fait.
Mm-hmm. Oui,
du bon et du moins bon.
Effectivement, Amazon Studios, en fait, Woody Allen et ce même directeur photo-là sont en train de travailler sur un autre film qui va être présenté au courant de l'année 2018 là, sur Amazon aussi. Donc,
parce que Netflix a encore un contrat de 3 films avec Adam Sandler, ça donne une idée. Ouais.
Ouais. Qui s'en débarrasse au plus vite.
Oui, puis le dernier qui est sorti avec lui sur Netflix de l'histoire de mariage avait pas l'air très fameux non plus. Là.
Je pense que l'expression dans le milieu, c'est pas écoutable.
J'ai l'impression de dans le milieu de Cinébranche, en tout cas.
Ouais, dans le milieu chez nous, là, c'est le même que ça s'appelle.
Voilà.
Merci beaucoup, Mélina. Merci, Jim.
C'est le moment des sorties cinéma.
suis sorti avec les sorties cette semaine.
Est-ce que tu mues?
Ça fait depuis 10 ans que j'ai pas arrêté.
Bon.
Un film pour toi?
Ah, t'es pas sérieux?
Ben oui, Tout le monde debout.
Oui! Avec Franck Dubosc.
Ben oui, comédie française réalisée par Franck Dubosc, mettant en vedette Franck Dubosc, Elsa Zilberstein, Alexandra Lamy, Gérard Darmon, Camille Zorel et Laurent Bateau. Laurent Bateau.
Ah, ça va être bon, une bonne comédie française.
Ah. Jocelyn, homme d'affaires en pleine réussite, est un dragueur et un menteur invétéré. Lassé d'être lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en se faisant passer pour un handicapé. Jusqu'au jour où elle lui présente sa sœur, elle-même handicapée. Bon, là, juste pour qu'on soit clair, je lis ça puis j'ai envie de pas aller voir ça. Jim, t'es brisé. Les fantômes d'Ismaël, version originale de Ismaël's Ghost, drame français réalisé par Arnaud Desplechin. Mettant en vedette Charlotte Gainsbourg, Marion Cotillard, Mathieu Almaric et Louis Garrel.
Oh, quand même, des noms intéressants.
Des gros noms. En couple depuis 2 ans avec l'astrophysicienne Sylvia, Ismaël Vuillard prépare un film d'espionnage inspiré de la vie de son frère, l'insaisissable Ivan Dédalus. Au même moment, son épouse, Clara Blum, qui avait disparu sans laisser de traces 21 ans plus tôt, ressurgit dans sa vie. Le choc est dur à encaisser pour le réalisateur quinquagénaire, mais il l'est encore plus pour Sylvia, car celle-ci a vite fait de comprendre que Clara souhaite récupérer son mari. Pam-pam! Également en pleine tempête, version originale de Adrift, un drame romantique américain réalisé par Balthazar Cormacure, mettant en vedette Shailene Woodley, Sam Claflin, Jeffrey Thomas et Elizabeth Hawthorne. Alors que les deux navigateurs se préparent à traverser l'océan, Tammy Holdham et Richard Sharp n'auraient jamais pu prévoir se diriger droit vers l'un des ouragans les plus catastrophiques de l'histoire. Une fois la tempête passée, Tammy se réveille pour découvrir Richard grièvement blessé et leur bateau presque entièrement détruit. Sans aucun espoir d'être secouru, Tammy devra trouver la force et la détermination afin de survivre et sauver le seul homme qu'elle aura jamais aimé.
Ça a l'air vraiment quétaine. J'ai vu la bande-annonce. Ça a l'air quand même pas mauvais, mais il y a trop d'informations dans la bande-annonce. J'ai l'impression que le film est là au complet.
Mais en même temps, on avait l'impression de la même chose avec Gravité. On a eu l'impression de la même chose avec... c'était quoi le truc où il était tout seul dans l'eau avec des requins?
Life of Pi.
Non, pas lui, mais je vois ce que tu veux en venir. Mais c'est le genre de film que j'aime pas en partant, fait que je suis vraiment pas...
Bon, ben Mélina.
Peut-être. Sinon, on a un autre film, là, Jim, que et toi et moi, on va adorer.
T'as-tu une idée? Non, là,
on va probablement faire une critique commune. La chute de Sparte, dramatique québécoise, réalisée par Tristan Dubois, mettant en vedette Lévi Doré, Carl Walcott, Liliane de Francesco, Jonathan Saint-Armand, Devin O'Connor, Simon Duchesne, Marianne Farley, Gabriel Sabourin, Amélie Glenn, Éric K. Boulian et Jean-Marc Généreux. C'est très drôle parce que c'est encore un autre film québécois qui parle de sport, puis on est un peu tanné, Jim et moi. Quand on est jeune, on a parfois l'impression d'avoir tout le monde à dos. C'est le cas de Steve, avec 2 E, Simard, 16 ans, qui entame sa dernière année à la polyvalente Gaston Miron de Saint-Lambert. Intellectuel au sens critique très aiguisé, il peine à établir des liens avec ses parents et les autres élèves. Il n'a qu'un seul ami, Virgile. Ça fait très Descente aux Enfers de Dante, qui est comme Virgile est là pour le guider puis la merde va pogner.
Sacré Virgile.
Sacré Virgile. Pour tromper sa solitude et meubler son imaginaire, il se réfugie dans la lecture et la musique. Mais un incident avec la grosse brute de l'équipe de football des Spartiates forcera Steve à sortir de sa tête pour prendre son destin à bras-le-corps. En contrepoint, il y a Véronique. La découverte d'une relation possible avec une des belles filles de l'école lui dégagera un pan d'horizon insoupçonné.
Qui réalisait ça? Ça ressemble à du Denis Arcand.
Tristan Dubois.
Ah, OK.
Non, c'est pas...
Bon, à suivre.
Ouais. Action Point, comédie américaine réalisée par Tim Kirby, mettant en vedette Johnny Knoxville de comment ça s'appelait? Les gens qui se faisaient mal là eux-mêmes puis qui trouvaient ça drôle.
Jackass.
Oh, Johnny Knoxville était un des.
Okay. Ouais, celui c'était qui est toujours vivant.
C'est lui qui partait cette histoire-là en fait. Johnny Knoxville, Bridget Lundy Payne, Johnny Pemberton, Dan Bacchidal. Ben Johnny Knoxville on l'a aussi vu dans Bad Grandpa. C'était lui qui avait comme parti de ce projet-là. Bref, réalisé par Tim Kirby, un casse-cou conçoit et exploite son propre parc à terme avec des amis. Ça va probablement pas voler haut, mais ça peut être très divertissant.
Bon.
C'est ça pour les sorties cette semaine.
Eh bien, la semaine prochaine, Louis, on va parler de Solo. On va faire une critique commune.
On fera pas de divulgachère. Nos amis auditeurs ne savent pas qu'est-ce qui s'en vient, Jim. Laisse un peu planer le mystère.
Mais on pourrait pas faire un pool?
Un Deadpool?
Non, un Living Pool.
Tant que ça finit pas au Liverpool.
On est une semaine à l'avance. Est-ce qu'on se dit tout de suite comment on pense que ça va être le résultat, genre? On aime, on n'aime pas chacun.
Est-ce qu'on fait une prédiction de nos propres notes? Moi, je présume, ok. Jim, qu'est-ce que tu penses qui va être ta propre note?
Je dirais que j'ai l'impression que ma propre note va être autour de 8.
Mais non.
Moi, d'après moi, ça va être autour de 7.
Ah, ouais.
Mais...
ouais, avec l'histoire de changement de réalisateur, tout est possible.
T'es avec moi, Louis.
Le pire, c'est que ça va soit être 6, soit 9. Il y a comme pas... Je te reconnais, là. Donner un 8 à ce film-là.
OK, moi, je pense que ça risque d'être un 8, pour moi.
Pour toi. Ouais, ouais. OK, bon. OK, c'est bien. On enregistre ça, on s'en parle la semaine prochaine.
On s'en parle la semaine prochaine.
Excellent. Je suis là. On est là.
T'es déstabilisé, Louis-là.
Mais là, c'est parce que là, on a changé toute l'ordre des affaires. Puis moi, ça me... Je suis un homme aisément confus, malgré mon beau parler et mes expériences variées, ça m'arrive à l'occasion de pas comprendre ce qui se passe.
Mais comme disait Confucius, confuse-toi toi-même.
Je vais demander qu'on arrête ça là. En même temps, je ne devrais pas parce que le film que j'ai été voir est vraiment thématique avec ça.
Ah ouais?
Parce que j'étais voir La piscine morte 2.
La piscine morte, oui.
La piscine morte 2. En fait, Deadpool 2, qui est le dernier film de la collaboration Ryan Reynolds, TJ Miller, Fox, Marvel, toute la patente. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Au niveau bande dessinée, ça a toujours été l'espèce de d'endroit où on reléguait toutes les blagues de autoréférentiel, toutes les blagues de briser le quatrième mur, toutes les blagues de sortir des moules. Fait que Deadpool, pendant longtemps dans la bande dessinée, il y avait deux voix intérieures, donc il y avait comme sa voix puis sa voix intérieure qui avait une autre couleur de bulle et de dialogue. Il y en avait une deuxième, éventuellement il y en avait trois, jusqu'à temps qu'on réalise qu'une des trois c'était un personnage qui le possédait, c'était un démon qui le possédait. Tu sais, il y a comme...
C'est absurde.
Tout, il a participé à des univers, il s'est ramassé aux côtés de Spider-Man, s'est ramassé aux côtés de Captain America, s'est ramassé aux côtés de Cable, qu'on va revoir ici. Deadpool est toujours plus proche de l'univers X-Men, ça a toujours été là où est-ce qu'il se retrouvait le plus fréquemment. Mais dans ce cas-ci, c'est aussi une question purement monétaire. Parce que c'est là que ça devient compliqué. En théorie, Deadpool, personnage de Marvel. En théorie, X-Men, un univers de Marvel. Malheureusement, dans les années 80-90, ils ont commencé à manquer d'argent suite à la diminution des ventes de comics à la fin des années d'argent. Mm-hmm. Donc, ils ont vendu les droits cinématographiques de X-Men et de Deadpool à Fox.
Quelle erreur, hein?
Ben à l'époque, ils ne savaient pas. Puis, en fait, c'est quand même Fox avec les premiers X-Men qui ont réussi à ramener à l'avant-plan les films de super-héros comme on les connaît, des films d'ensemble, des films qui bâtissaient l'un sur l'autre. Donc, ça. Mais ça veut quand même dire qu'on a Deadpool, qui est un héros typiquement Marvel, qu'on est habitué de voir interagir avec les Avengers, Spider-Man, qui, là, se ramasse un peu à côté. Avec, dans le premier film, c'était particulièrement évident, il se ramassait avec des personnages de troisième zone de l'univers de X-Men, mais pas vraiment. Souvent même des personnages qui ont des versions différentes que celles des films, parce que ça coûte moins cher de changer d'acteur.
Parce que Spider-Man est avec Sony, c'est ça?
Spider-Man est avec Sony, okay. Quoi qu'en ce moment, c'était en recollaboration avec Marvel, fait que c'est pour ça qu'il est... En tout cas, ça, c'est compliqué. Mais ce que c'est finalement Deadpool, le concept, c'est Wade Wilson qui, suite à un accident, suite à un cancer, se ramasse à subir un traitement contre le cancer hautement avancé technologiquement, qui est en réalité une combine du projet X, qui est un projet récurrent de l'univers X-Men. C'est d'ailleurs à cause du projet X que Wolverine a ses griffes d'adamantium. Mais bref, suite au traitement, il réussit à avoir un espèce de healing, de facteur de guérison extraordinaire à la Wolverine. Sauf qu'étant donné qu'il a le cancer, ben, le cancer se transmet dans tout son corps et le pouvoir est nécessaire pour le garder en vie tout le temps. Ce qui le rend horriblement défiguré. Et là, je parle horriblement. Là. C'est assez ridicule, surtout avec un acteur comme Ryan
Reynolds.
Comme
un grand brûlé. Là, un peu.
Comme un avocat qui a pourri au soleil puis qui a été fourré par un autre avocat. Citation du film. Bref, c'est ça. Le premier film était la mise en place du personnage. Comment est-ce qu'il est arrivé là? Qui c'était avant d'être transformé en Deadpool? Deadpool 2, c'est... Depuis qu'il est devenu un super-héros, Deadpool s'en prend aux méchants, souvent violemment. Au bord du suicide, après un coup de sort du destin, il est recueilli par son ami Colossus, qui l'inscrit dans les apprentis X-Men. plusieurs gags de X-Men abrutis qui se font d'ailleurs tout le long du film. Ce n'est pas pour plaire à Deadpool dont le comportement frondeur lui cause des ennuis. C'est d'ailleurs ce qui arrive lorsqu'il est appelé à calmer un adolescent mutant qui menace de faire exploser son orphelinat. Quand un soldat qui voyage dans le temps cherche à l'éliminer, le super-héros décide de former une équipe pour le protéger. On va l'écouter la bande-annonce, on va se mettre un peu dans le tout. Cause I've been shaking, I've been bending backwards till I'm broke. Watching all these dreams go up in smoke. Let beauty come out. Donc oui, effectivement, j'avais oublié de mentionner que
la bande annonce.
Céline Dion a été impliquée dans le projet. On écoute en ce moment sa toute dernière chanson, Ashes, qui est dans le film d'ailleurs, mais également servait à la campagne de publicité, où est-ce qu'on voyait un très adorable Deadpool en talons hauts qui faisait une chorégraphie de plusieurs minutes sur la chanson. On va aller écouter la vraie bande-annonce maintenant.
Ah, c'est merveilleux.
Ce gamin est en difficulté.
Tu te dégages ou tu crèves.
Bolo sur la haine, Thanos. Je le protégerai contre Cable. Tout seul, je peux pas. Il faut du renfort. On va former un super méga groupe.
Ouais, on va refaire un tour sur LinkedIn. Je te présente Bedlam.
Je m'appelle Shatterstar.
Domino, j'ai de la chance.
La chance, c'est pas un super pouvoir.
Et côté sinage, ça le fait pas.
Mais si.
On a qu'à couper la poire en deux, c'est non.
Excellent, j'aime les gags.
C'est ça tout le long. Ben, là, d'ailleurs, c'est juste pour l'explication des gags rapidement, on se calme Thanos, parce que l'acteur qui joue Cable, c'est Josh Brolin, qui joue également
Thanos dans Avengers.
Avengers.
Mais non!
oui, qui, okay, qui, comme, avec un visage vraiment différent. On s'entend, il est pas maquillé, il a un bras métallique, il a un air vraiment plus... Vraiment plus, ouais.
OK, mais c'est quand même drôle là, comme situation.
C'est le film est une série de gags. Comme on va faire un tour sur LinkedIn, Domino's qui réussit à rentrer dans l'équipe malgré que son seul super pouvoir, c'est la chance. D'ailleurs, c'est vrai et ça donne des scènes extraordinaires. Zazie Beetz qui joue Domino's, c'est probablement ma nouvelle actrice favorite de 2018. Oh, elle a une personnalité sur scène qui est extraordinaire. Elle fait partie de l'équipe de l'émission de télé Atlanta que je vais probablement aller écouter juste à cause de ça. En fait, ce qu'on entendait, c'était la création de la nouvelle équipe X-Force, qui est un retour de ce qui se passe dans les comics dans le temps. On a d'ailleurs un caméo de Brad Pitt grâce à cette aventure-là. On a un caméo de Tom Cruise grâce à cette aventure-là. On a un paquet d'affaires vraiment ridicules. Oh, et puis c'est des caméos de « si tu clignes des yeux, tu vas le manquer ». C'est à mourir de rire. Comme n'importe quel film ou de comédie, si... C'est particulièrement un film où c'est autoréférentiel, où c'est des gags sur... soit des gags sur ses propres aventures du premier film. Entre autres, il y a un moment où il rouvre une trappe dans le plancher et il trouve deux sacs de cocaïne, $1 million et le remède contre la cécité, qui est un retour à une blague qu'il avait faite sur sa coloc de l'époque, Blind Hall. Bref, si on n'a pas le contexte, c'est-à-dire que si on n'est pas déjà versé dans l'univers de super-héros, toutes les gags de « je vais faire un atterrissage super-héros », puis là, il a super mal aux genoux, parce qu'il est comme « ça n'a pas d'allure cet atterrissage-là, mais ça a l'air cool
ouais, ». C'est ça, c'est satirique un peu.
C'est beaucoup. Il y a un moment où est-ce il se fait poser un collier qui lui enlève ce super-héros, puis il commence à faire des gags que, comme il manque juste un arc et une flèche, puis c'est Hawkeye. Il y a encore une fois énormément de gags sur la carrière de Ryan Reynolds. C'est jamais clair. T'sais, il signe un autographe Ryan Reynolds alors qu'il est en personnage de Deadpool. Il y a évidemment encore une fois des références à sa carrière comme Green Lantern dans le passé, sur le fait que c'est un film de famille qui est mal dissimulé, sur le fait... Bref, moi, j'ai été le voir une fois pour la critique. Je vous annonce officiellement que je vais être allé le voir au moins une autre, potentiellement deux autres fois cette semaine, parce que j'ai trouvé ça à mourir de rire. Mm-hmm. Puis les gags tombent bien, puis l'humour est intéressant. Là, je peux pas le révéler, parce que ça gâche vraiment beaucoup de films, mais même les stéréotypes très classiques de comic book, ils réussissent à les prendre, à les revirer de bord et à rendre ça encore plus intéressant. Malgré un humour qui est parfois gras, surtout avec certains personnages, T.J. Miller, entre autres, vient en tête. T.J. Miller, d'ailleurs, qui est comme controversé d'être dans ce film-là. Parce que depuis quelques mois, quelques semaines, on commence à avoir beaucoup d'accusations d'harcèlement sexuel de sa part. Donc, il n'a peut-être pas été... En tout cas. Mais bref, fait que je le recommande fortement. Je donne un 9 sur 10. Si tu as vu au moins 5 films de super-héros dans les 2-3 dernières années. Autrement, 7.5, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont juste... pas connectés, qui vont juste moins être intéressants. C'est vraiment un film qui nécessite le contexte pour être bon. Ce serait donc la fin de cette critique de film. Merci.
Ben merci.
Ben merci.
Hey Jim, qu'est-ce que t'es allé voir comme film cette semaine?
Ben écoute, je suis content que tu m'en parles. Cette semaine... il n'y avait pas grand-chose d'intéressant au cinéma pour moi. Tu as pris le seul film qui pouvait être intéressant.
Jim, je refuse cette critique-là. Moi, j'ai bien l'intention, à moins que les choses changent drastiquement, d'aller voir Chien sous enquête la semaine prochaine. Et je te laisse. Non, je vais te traîner, mon homme.
Hey, on devrait y aller les trois ensemble. Moi aussi, j'aimerais ça le voir.
On a déjà une critique commune importante. C'est une critique en solo, ou plutôt une critique de solo en groupe.
Ça va être un trio de solo.
Donc, pour revenir à mon film de cette semaine, donc à mon goût personnel, rien ne m'inspirait au cinéma et c'est pourquoi j'ai décidé de Netflixer. Et franchement, ça faisait un certain nombre de semaines que Netflix m'envoyait à chaque semaine des messages pour me dire de regarder ce film-là. J'avais pas trop... Je me suis dit, bon, OK, c'est peut-être le moment ou jamais de regarder le film. Donc, le film s'appelle Anon, comme dans Anonyme. Un film allemand écrit et réalisé par Andrew Niccol et produit pour Netflix exclusivement, avec une palette d'acteurs quand même assez intéressants. Clive Owen, qu'on a vu l'an dernier dans Valerian. Amanda Seyfried, qui a déjà joué dans un film du même réalisateur qui s'appelait Time Out, qu'on se souvient tous. Donc, bon film d'ailleurs, à mon avis. Mais aussi, ça m'a vraiment surpris, mais je me disais, c'est qui déjà lui? Ça voulait pas revenir, puis qu'à un moment donné, j'ai fait juste... Ben, c'est juste parce que je l'avais jamais imaginé dans un film de cet ordre-là, mais l'acteur canadien Colm Feore, qui joue le collègue anglophone de Patrick Huard dans Bon Cop, Bad Cop, a un troisième ou quatrième rôle dans le film, donc c'est quand même pas pire, mais je l'avais juste pas reconnu parce que le contexte est tellement loin de Bon Cop, Bad Cop que ça a juste aucun sens. Donc, on écoute la bande-annonce.
Elle modifie ce que je vois. L'escalier, il s'étire. C'était une illusion d'optique. Illusion qui ensuite a disparu de mes archives. L'anonymat, c'est l'ennemi.
Quelqu'un tue mes clients en essayant de faire croire que c'est moi.
Elle te manipule.
Je ne suis pas en sécurité. Et toi non plus.
On doit pouvoir croire nos yeux. Le système s'écroule.
Donc, c'était la bande-annonce du film Anon, produit sur Netflix, diffusé sur Netflix. Et pour bien comprendre la réalité de ce film-là, parce que ça peut être un peu tordu là, à expliquer comme ça, là, sans le voir, je vais vous mettre un petit peu dans le contexte. C'est un film, on pourrait dire, de science-fiction, mais qui se passe dans un futur plus ou moins proche, quand même assez bientôt, si on veut, dans une société qui a décidé que, par exemple, la sécurité et l'ordre passaient avant, ou du moins devant l'intimité et l'anonymité. Mais plutôt que de passer par des surveillances par caméra ou par drone, comme on a l'habitude de le voir, les forces de l'ordre peuvent voir tout ce que les gens voient, indirectement, peuvent avoir accès à tout ce qui a été tourné par une espèce de prothèse qui est insérée dans les yeux des citoyens. Et donc, ils peuvent voir et, en fait, chaque personne a une prothèse qui lui permet d'enregistrer et donne une réalité augmentée à tout ce qu'il voit. Donc, on pourrait dire que ces puces-là sont munies d'une espèce de système de reconnaissance faciale et visuelle extrêmement développé. Ça enregistre tout, c'est connecté avec, une espèce de centrale, une espèce de cloud. Et tout est archivé, donc, du début à la fin de la vie de la personne, tant qu'elle a cette prothèse dans les yeux. Et tout le monde l'a. Donc, voilà. Et... c'est ça. Et c'est un film policier, donc c'est intéressant parce que ça... un film policier dans le contexte où tu as accès à cette information-là, ça peut quand même être intéressant. Imaginez que vous marchez dans la rue, vous croisez des gens, vous voyez une bulle apparaître au-dessus des gens qui vous dit leur nom, leur occupation, peut-être même leur âge, je me souviens plus. Là. Donc, on peut partager, mettons, les dernières 5 minutes ou qu'est-ce qui s'est passé, un souvenir qui s'est passé il y a quelques semaines avec quelqu'un comme on le ferait sur Facebook, mais directement avec ses yeux. Donc, Le personnage du film, Saul Freeland, est un enquêteur chargé d'évaluer les crimes en accédant à ce footage-là, justement, à cette espèce de tournage oculaire. Par exemple, quand quelqu'un tue quelqu'un, bien évidemment, le regard de la victime filme généralement le coupable. Et donc, c'est assez facile de trouver le meurtrier, ce qui fait que les crimes, bon, sont plus faciles à trouver. Donc, l'histoire, c'est de trouver l'auteur d'un crime un peu particulier ou de crimes un peu particuliers. Parce qu'un jour, alors que le Sal marche sur un trottoir parmi bien d'autres gens, il voit une femme pour qui il ne détecte aucune identité. Donc ça, c'est vraiment inhabituel. Et à son travail, il va recevoir des informations sur une série de meurtres particuliers pour lesquels, dans les derniers instants des victimes, au lieu de voir le meurtrier, ben la victime a enregistré la vue du point de vue du meurtrier. Donc, c'est un peu bizarre. C'est donc du piratage, on pourrait dire. Piratage...
de cerveau.
Ben, oculaire, en tout cas.
Yeux.
Ouais, c'est ça. Je vous épargne la technicalité. En le voyant, ça devient clair. Là. J'explique peut-être un peu mal. Mais, donc, l'histoire, c'est de trouver l'auteur de ces crimes-là. Et la piste, c'est cette femme anonyme-là que Sal a croisée dans la rue. Donc, le côté policier peut faire peut-être un peu penser au film Blade Runner ou Minority Report. Il y a vraiment je trouve qu'il y a vraiment des touches de ça qui sont présentes dans ce film-là. L'histoire dans le film est relativement simple, même si c'est un peu tordu. Il y a des touches de whodunit. Ça donne un côté enquête est quand même là. Il y a une tension. Ce qui fait vraiment la beauté du film, par contre, c'est vraiment plus au niveau de l'ambiance. C'est terne, c'est froid. Puis si tu l'as vu, Louis, tu dois t'en souvenir. Écoute, il y a une lourdeur qui habite ce film-là du début à la fin. Dans les couleurs, tant que dans les dialogues, que dans l'image, dans le visuel. Encore là, des vieilles voitures. Mais ça, c'est typique du réalisateur.
Mais sais-tu à quoi ça faisait beaucoup penser en termes d'ambiance et d'atmosphère? Ça me faisait penser à la combinaison de Equilibrium, le film de 2001 avec Keanu Reeves à la tête, et ainsi qu'à Gattaca. Bienvenue à Gattaca.
Ben oui, mais qui est du même réalisateur, d'ailleurs.
Qui est du même réalisateur.
Absolument.
Donc, il y a une
Je suis content que tu aies vu Gattaca, j'en parle un peu plus tard dans ma chronique, effectivement. Effectivement, oui, ben c'est ça, on reconnaît sa patte. C'est ça, un film quand même assez captivant. Moi, je t'avoue que j'ai pas pu du tout détourner le regard de ce film-là. J'étais vraiment pris dans l'histoire. Pourtant, c'est quand même un film qui a un débit relativement lent par rapport à d'autres films d'action, par exemple. J'ai vraiment aimé le film. Alors, je sais que t'as pas plus ou moins t'as des réserves, mais moi, j'ai vraiment, vraiment aimé ce film-là. Il y a des imperfections, évidemment, quelques coins ronds. Au niveau visuel, personnellement, j'ai trouvé ça sublime. Un petit bémol que je trouve un peu dérangeant, là, c'est pas grand-chose, mais quand on voit beaucoup de point of view, là, de vue comme... comment on appelle ça?
Point de vue.
Moi, ouais. En tout cas, filmé par point de vue, donc, autrement dit, la caméra est un peu... On voit dans la caméra comme si on était la caméra, comme si on était la personne qui marche. Et ça, j'ai trouvé qu'il y a un petit défaut là-dedans, c'est que c'était vraiment la caméra était vraiment trop stable, était trop fluide. Normalement, dans ce genre de point de vue-là, on aurait une caméra un peu plus saccadée.
Là, on parle d'un monde de la technologie pour balancer une caméra et être assez petite pour être dans un œil. Ces gens-là ont également développé de l'auto-stabilisation.
J'avais pas pensé à ce point de vue-là, mais c'est quand même extrêmement fluide. Là.
En tout cas, on
voit même pas la personne marcher. Là,
pour que ce soit écoutable, il faut que ce soit
ça. Ça dépend. Ouais. Moi, j'ai souvent vu des points de vue de caméra que j'adorais.
C'est plus nerveux,
on simulait carrément la paupière qui se ferme en allant dans des frames noirs des fois. Ça, c'était fantastique. Là, vraiment, t'avais vraiment... Ça renforçait encore plus. Donc, il y a des moyens de rendre ça encore plus crédible.
En tout cas, dans ce cas-ci, ça n'a pas été fait, mais c'est pas un gros défaut, honnêtement. Là. Ce film-là est très, très bon. Et puis, ben c'est ça. En fait, j'ai pas eu ce feeling-là depuis le film Memento, il y a plusieurs années. Je donne personnellement un 9 sur 10 au film Annan. C'est franchement un très bon film.
Je vais faire une contre-critique, là.
Bon, ben vas-y, fais ta contre-critique.
Okay. J'ai donné un 7.5 sur 10 à ce film-là, dans ma tête, dans mon appréciation de la chose, parce que oui, effectivement, c'est très lourd, c'est très prenant. Malheureusement, autant je suis content qu'il y ait plus de films de science-fiction qui se fassent, autant je suis content qu'on voit des gros noms associés à des projets de ce genre-là, autant j'ai pas pu m'empêcher de trouver le projet très dérivatif. D'idées qui avaient déjà été vues ailleurs. Moi, je pense au film de 2006, Mirror. A Scanner Darkly, qui est tiré d'un roman de Philip K. Dick. Je pense au Adjustment Bureau, qui est également tiré d'un roman de Philip K. Dick. Je pense, en fait, beaucoup de l'œuvre de Philip K. Dick est très similaire à ce qui a été fait là-dedans. Même Gattaca pouvait être victime de la même critique. Je pense que le réalisateur, les écrivains qui travaillent sur ces films-là ont la bibliographie de Philip K. Dick cachée quelque part dans leur bureau. C'est assez évident. Mais également de... justement Black Mirror, de cette espèce de dystopie du futur. J'ai l'impression que plus les temps avancent, plus le cinéma s'adonne à ce genre de sujet-là, moins on fait des utopies du futur, plus on va faire des dystopies trash et dark. Fait que, bien que j'ai trouvé ça intéressant, bien que il y avait des scènes vraiment cool, il y avait une photographie qui était super intéressante, il y avait une ambiance qui était vraiment là, autant j'ai pas pu m'empêcher à plein de reprises dans le film de faire « Mon Dieu, j'aimerais donc voir les applications, le fun. »
Ben écoute, oui, effectivement. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de dystopies au cinéma, disons, de cette envergure-là. Je pense à même le retour de Blade Runner cette année. Tout oui. ça. Je pense qu'il y a une mode en ce moment de retourner vers ça. C'est pas nouveau, on s'entend. C'est du classique 1984 et autres, et tous ces films-là, ben, The Island.
Fahrenheit 451 qui vient sortir comme film chez HBO.
Je pense que c'est... Je sais pas, il y a une tendance au retour de ce genre de trucs-là. Moi, personnellement, ça me choque pas. Je trouve ça très agréable. Puis, je pense que c'est peurant peut-être de faire des utopies parce que quand c'est trop glorieux, des fois, un critique aime pas ça. Fait que je sais pas si c'est pour ça ou pas, là. Mais en tout cas, ben, je comprends que... Mais quand même, 7.5, c'est pas si mal, je veux dire.
Non, c'était très écoutable. C'est juste que j'avais l'impression d'avoir déjà vu les parents spirituels de ce film-là à plusieurs reprises.
Ah oui, mais ça, il y a des inspirations énormément. Ne serait-ce que la technologie oculaire, je suis d'accord avec toi, c'est Black Mirror, là.
Au niveau, justement, de ce qui était si cool, c'est-à-dire l'ambiance, la couleur, l'espèce de glauque de la chose,
oui.
Pour moi, ça me rappelait justement énormément Blade Runner original.
Oui. Verdâtre un peu.
Plus que le nouveau qui était beaucoup plus dans l'espèce de violence du désert, vraiment l'original qui était très urbain, qui était très gris, qui était très... En fait, ce que c'est le film que Annan ainsi que Blade Runner ainsi que quelques autres, c'est que c'est directement inspiré du roman et du film noir, c'est-à-dire cette espèce de glauque avec un inspecteur pas glamour qui se ramasse mis dans des situations où il y a toujours quelqu'un d'alcoolique d'impliqué là-dedans, puis mais dans des setups de science-fiction, ce qui est intéressant, mais ça finit par être dérivatif.
Ouais, mais moi j'aime ça le mélange années 50 et futur.
Oui, mais il y en a trop, il y en a beaucoup à ce point-ci.
Oui, probablement. Et d'ailleurs, ça me fait penser que ce film-là ferait un excellent jeu vidéo. Je suis persuadé. J'aime vraiment le mood de ce film-là. En tout cas, mais moi, ça s'est pas fini là, en fait, parce qu'après le film, je me suis dit, je veux en savoir un peu plus sur ce réalisateur-là. Je me suis rendu compte qu'en fait, Kendrew Nicol, le réalisateur originaire de Nouvelle-Zélande, ben en fait, je le connaissais déjà un peu parce que c'est l'auteur du film Terminal avec Tom Hanks. C'est l'auteur du film Truman Show avec Jim Carrey, qui a vendu d'ailleurs pour pouvoir payer, financer son premier film, qui est Gattaca, que tu parlais tout à l'heure. Et justement, je me suis dit, tiens, je vais regarder son premier film. Alors, j'ai regardé Gattaca le lendemain d'avoir vu. Et là, j'ai vraiment pogné quelque chose. Là. Franchement, c'est vieux, on s'entend. Ça date de 1997, je pense, on en fait de même. Puis, oui. Pour vrai, là... Ce film-là, Gattaca, est désormais dans le top 5 des meilleurs films de tous les temps, selon moi.
Oh, wow!
Ouais, carrément. Il pourrait même se faufiler dans le top 3. Honnêtement, j'ai eu une expérience, là, mais ça fait longtemps que j'avais pas eu une expérience comme ça. Et c'est beaucoup plus que Annan. Puis tout Annan est très bon. Là, j'ai donné un 9 sur 10 quand même. Mais là je te dis, le style vieillot puis tout ça du film, je trouve que ça passe super bien encore aujourd'hui. Je donne un 9.8 à Gattaca. C'est ma plus haute note depuis Cinébrunch.
Qui a vieilli quand même.
Je sais, correct. Mais ça marche pareil. Je sais pas pourquoi. Je rentre pareil dans l'histoire comme si c'était réaliste. Parce qu'on s'entend que les trucs sont...
Non,
c'est un peu déconnecté, ouais. Les ordinateurs avec les gros claviers, puis les... T'sais. Mais ça marche. Je rentre dans l'univers, puis j'ai jamais décroché. Je pense que ce réalisateur-là a vraiment une force de créer une ambiance, puis de te garder dedans. Là, c'est vraiment, vraiment réussi, à mon avis.
Merci beaucoup, Jim. Ce serait la fin de cet épisode de Cinébrunch. On se retrouve donc à la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir. Mm-hmm. Et je vous souhaite un excellent popcorn au cheddar, au bacon, au sirop d'érable, au caramel...
au chocolat.
Au beurre. Juste au beurre, bien traditionnel.
Mais là, c'est le temps des fleurs de cerisier. Alors, profitez-en pour aromatiser votre popcorn avec quelques pétales. Ça va enjoliver votre journée de douceur et de poésie.
Bonne semaine!
Bonne semaine!
Bonne semaine!